Bonsoir à tous et à toutes, il est 21h, nous sommes mardi et c'est l'heure du Dojobar. Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Méduse.
Salut Mortel.
Et bonsoir à nos invités, ce soir nous recevons Gezoche.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du Dojo Hebdo, l'homme qui vous informe toutes les semaines sur les tendances du moment. Et nous accueillons Oscar.
Bonsoir.
Oscar, maître des chiffres, qui nous offre très régulièrement ses prestations en matière de charts et autres. Et donc, ce soir, Méduse, quel est le programme?
Alors, le programme de ce soir, chers auditeurs, on va commencer comme d'habitude par le petit tour de table de l'actualité. Ensuite, pause musicale, je ne sais pas ce qu'on écoutera, tu nous le diras à ce moment-là, Mortel. Puis, nous parlerons de Wonderful 101, le petit jeu exclusif de Platinum Games sur Wii U. Petit jeu, mais en fait, grand jeu pour beaucoup de gens. C'est Gezoche qui a pas mal joué au jeu, qui nous expliquera tout, pourquoi est-ce qu'il faut l'acheter, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal dedans. Ensuite, repause musicale, et puis on parlera ensuite, dans la troisième et dernière partie, du nouveau modèle, on peut dire, un peu de vente, des nouveaux modèles de vente que Nintendo amorce pour les quelques jeux grand public à venir, dont Wii Fit You et Wii Sports Club. Voilà.
Et tout de suite, on va commencer avec ton petit sujet avec Tumedius, qui était la mise à jour 4.0 de la Wii U.
Exactement, mise à jour que vous avez bien entendu tous téléchargé, 635 mégas, qui a été rendu disponible dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. C'est en fait...
Ça c'est précis, hein. C'est à 2h04 du matin.
Voilà. C'est en fait la deuxième grosse mise à jour de la Wii U de l'année. La première c'était vers le mois d'avril, elle avait apporté notamment la console virtuelle et aussi une plus grande réactivité du système en général, vu que c'était un petit peu anémique avant ça. Et donc ici c'est une grosse mise à jour. On va pas reprendre la totalité de ce qu'elle a apporté, mais pour moi elle m'a pas mal intéressé. Et hop, un petit instant. Walou. Alors pour ceux qui regardent le foot, Oscar nous signale qu'on vient de marquer un but.
Ok, non mais c'est bien comme ça.
Le dojo en direct. On rappelle d'ailleurs, oui, vu que c'est du direct, vous pouvez réagir sur Twitter en utilisant le hashtag dojobar ou bien sur IRC, mais je sais pas si on a quelqu'un sur IRC, moi j'y suis pas.
Moi j'y suis, je peux y être.
Tu peux y être.
Je vais y être.
Sois-y pendant que je blablate. Donc je reviens sur la mise à jour, ouais. Moi elle m'a beaucoup intéressé. Pourquoi? Parce qu'elle apporte tout simplement vraiment rien de majeur, mais toutes des petites choses qui sont sympathiques à l'usage. Un truc tout bête. Enfin, je sais que dans mon entourage, je connais quelques personnes qui ont une Wii U et qui l'utilisent notamment comme support principal de salon pour surfer sur internet. Du coup, l'arrivée du clavier USB dessus, c'est assez sympathique. Je sais pas s'il y en a ici qui ont essayé. Qui est-ce qui a essayé un petit peu de brancher un clavier USB pour rigoler?
Moi j'ai essayé de brancher le clavier USB. alors ça marche, mais par contre le fil est quand même un petit peu court.
Ça c'est le ton clavier.
Voilà. Non mais ça marche bien. C'est quand même un peu plus agréable à utiliser que l'écran tactile. Même si l'écran tactile reste quand même largement plus utilisable que le machin avec la Wiimote qu'on avait sur Wii. Mais bon, c'est pas non plus. Enfin voilà, c'est sympa parce qu'il y a un clavier, mais comme t'es obligé de poser ton clavier pour reprendre ta Wiimote pour aller faire la souris, en gros.
Voilà.
Ou reprendre la souris, ton pad pour la souris, c'est quand même pas extraordinaire.
Ça remplace pas un ordinateur de toute façon.
Non, bien sûr.
Non, mais ça fait un truc d'appoint plus sympa.
Ouais, voilà.
Ça fait un truc d'appoint plus sympa quand t'as un clavier.
Voilà. Ou alors il suffit que l'ordi soit occupé, genre de truc. Enfin bref. Moi j'ai aussi essayé le clavier, mais sous toutes ses formes. Alors moi je suis en Belgique, j'ai un clavier AZERTY bien entendu, mais un clavier AZERTY belge dont la particularité c'est de pas avoir des conneries comme le arrobas situé au même endroit, genre de truc. Bref, c'est des légers détails, mais sur Wii U c'est le clavier français franco-français, on va dire. Donc c'est un petit peu voilà, les Alt-GR sont pas situés au même endroit quand on tape. Je dois faire Alt-GR 0 pour avoir la rebasse au lieu d'Alt-GR 2 chez moi par exemple. Par contre, il y a plein de trucs assez je sais pas si toi t'as observé ça ou pas, Mortel, mais par exemple le pavé numérique, ça marche pas.
j'ai pas fait attention, je me sers assez rarement du pavé numérique, donc
alors la touche tabulation, ça marche pas.
Ça je sais.
Ça tu sais. Et donc finalement, à part les touches pour entrer les lettres et les chiffres, il y a juste le Escape et le Enter qui, eux, fonctionnent. Alors pour voir, je me suis rendu, j'ai essayé avec avec quelques machins. Donc j'ai essayé dans Google Street View, enfin je sais plus comment il s'appelle, c'est Wii Street View, voilà, le machin pour avoir la Street View de Google sur la Wii U. Et là, bah ça marche pas du tout. Ils ont pas supporté le clavier.
Ils ont même pas mis à jour le truc.
Alors sur le Miiverse, ça marche fort heureusement. Alors j'ai lancé le mode Wii de la Wii U. Et là, ça marche, et ça marche même mieux, puisque là, la touche tabulation fonctionne et le pavé numérique fonctionne aussi.
Mais voilà. Tu as une Wii U pour pouvoir jouer, enfin pour pouvoir avoir un clavier qui marche sur ta Wii.
Ouais, parce que la Wii, il n'y a pas de sortie HDMI, t'as vu. Voilà. Alors ça, c'était une petite mise à jour. On voit qu'elle est perfectible, vu qu'elle manque encore un petit peu de finition. Enfin, ne fût-ce que pas avoir le pavé numérique, ça peut... Voilà, c'est pas le truc cool. Alors, je suppose que personne n'a essayé, mais maintenant, apparemment, on peut utiliser un... avec le Wii U Chat, on peut utiliser un micro-casque. Par contre, Nintendo est assez évasif dans la note de mise à jour. Ils indiquent qu'on peut utiliser un casque pour communiquer sur le Wii U Chat. Alors, un casque, généralement, on colle un micro. Un micro, généralement, il faut une prise pour le brancher. Donc, je ne sais pas si Nintendo fait allusion au casque de type Triton, déjà compatible. Enfin, je ne sais pas avec ce genre de truc. Mais en tout cas,
ça va être très compliqué de découvrir. Surtout que je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un ici qui a un casque de ce type-là pour vérifier. En plus.
Non, j'en ai pas, moi.
Voilà, c'est quelque chose, cher lecteur, qu'on pourra pas faire, cher auditeur, pardon, sauf peut-être si tu nous indiques de quoi il s'agit.
Voilà, si tu es riche et que tu as acheté un casque Triton dans ton magasin favori, voilà. Envoie un tweet. Alors, ou envoie un mail ou un pigeon, ce que tu veux, mais envoie-nous un truc.
Alors pour terminer avec le côté web de la mise à jour, on peut ouvrir maintenant les PDF dans le browser web. Là, j'étais quand même assez surpris parce que j'ai essayé simplement avec un gros rapport de Nintendo qui fait pas loin de 8 mégas. Ça marche, et une fois que le PDF est téléchargé, enfin je veux dire, ça s'affiche, mais la fluidité entre les pages est impressionnante. Je veux dire, sur mon PC, sur mon quad-core à 3 GHz, j'ai pas cette fluidité-là en passant d'une page à l'autre, et là, sur la Wii U, c'est beaucoup plus fluide. Alors ça m'a assez surpris.
Ah, bah, c'est parce que la Wii U est plus puissante.
C'est une bonne nouvelle parce que pour le kit de Earthbound, justement, il y avait un format PDF. Ouais. Et avec le gamepad, en fait, c'était super long, quoi. J'ai essayé de voir comment ça marchait et tout, donc avec ce fameux guide, et à chaque fois les pages elles étaient super longues à charger et tout. Donc là, avec la mise à jour PDF, j'ai pas essayé, mais si c'est plus rapide, ça sera
ça m'a vraiment impressionné, dans la mesure où j'ai quand même un PC qui va pas trop mal, et me dire que la Wii U qui souffrait au début de ces menus hyper lents, ce genre de choses là, là elle était vraiment réactive, c'était cool. Alors comme c'est un PDF qui venait du site officiel Nintendo, je me suis dit bon, je vais aller essayer d'en chercher un ailleurs pour voir, c'est pareil, c'est tout aussi fluide. D'accord. Et en fait, derrière le lecteur PDF, ce qu'il se cache, c'est le Document Viewer de Netfront, qui est une boîte dont je me souviens plus ce qu'elle fait exactement par des Document Viewers. Voilà. Et alors pour la petite histoire, cette boîte-là leur Document Viewer compatible PC permet aussi de lire les documents Word, Excel et ce genre de trucs-là. Par curiosité, je me suis dit, on sait jamais, je vais essayer de voir si on sait lire un Word ou un Excel avec la Wii U, mais ça va pas.
Fallait pas rêver non plus. Ouais. C'est vrai que ils auraient pu mettre en fait le truc complet.
Ouais. Et alors, la grosse partie de cette mise à jour, c'est bien entendu de pouvoir jouer au jeu Wii uniquement sur le gamepad, donc en se passant de la télé. Je sais pas si il y a des gens aussi qui attendaient ça fortement ou alors qui ont déjà essayé.
Moi j'attendais, mais le fait que ça soit pas compatible, enfin que la Wiimote est obligatoire, j'ai pas encore essayé, parce que du coup ça, l'intérêt je trouve est beaucoup plus, ça perd vachement en intérêt, quoi, du coup. Au jeu Virtual Console de la Wii et tout, ça aurait été cool, quoi, de pouvoir y jouer directement avec les boutons du gamepad, mais là le fait d'avoir une manette obligatoire pour l'instant, c'est un peu dommage.
Ouais.
Moi, j'ai pas encore essayé parce que j'ai pas du tout eu le temps, mais j'aimais bien l'idée en tout cas de pouvoir jouer avec seulement le gamepad, parce que mine de rien, dans certaines situations, la télévision n'est pas toujours disponible, et je me dis que là, finalement, tu branches tes écouteurs sur ton gamepad, tu prends ta petite Wiimote, tu fais chier personne et tu joues dans ton coin. Je trouve pas ça idiot du tout, en tout cas, et je suis assez content qu'il l'ait fait. Maintenant, j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire si ça marche ou pas bien.
Moi, j'ai testé en long et en large, et j'en ai profité aussi pour tester le surround, vu que le Dolby Pro Logic 2 de la Wii est maintenant disponible dans le mode 8. Et donc, bah, comme Gezoch, évidemment, j'aurais adoré que le... ça se prononce Gezoch.
Ou Gezoch, ou comme tu veux.
Ouais, voilà. Gezoch.
Me reconnais.
Amigo Gezoch.
Voilà, non, je, sais que tu parles de, je sais que tu parles de moi.
Tu ouais, peux l'appeler voilà. Irène si tu veux.
Va pour Irène. Ouais, donc j'ai essayé, enfin comme Gezoch, j'aurais adoré de pouvoir utiliser directement les touches du gamepad à la place, par exemple, de la manette classique, notamment pour Xenoblade ou Mario Kart ou Smash Bros.
Ouais, voilà, ouais.
Alors j'ai essayé et je me suis dit bon ok ça marche super bien pour les trucs genre Mario Galaxy ou Donkey Kong ou même Xenoblade. Alors maintenant pour les jeux pour lesquels il faut pointer, il faut être à 30 cm au minimum du gamepad pour que le gamepad fasse office de sensor bar. Là on se retrouve directement forcément pour des jeux par exemple comme Wii Sport. Comme Wii Sports, là c'est quand même assez tendu dans la mesure où tu peux pas être trop près du gamepad si tu veux pas lui foutre un coup de raquette de tennis dans la gueule, quoi. Forcément. Et j'ai essayé aussi avec des FPS, avec un jeu dont je ne citerai pas le nom, même s'il m'appartient pas, Call of Duty.
Est-ce que c'est le Black Ops 2 au moins?
Non.
C'était Black Ops
c'est
tout
court. Modern Warfare 2, donc c'est celui qui m'a.
Non. Alors,
Modern Warfare
prononcé.
Complexe.
Je suis désolé, c'est Appel du Devoir.
Appel du Devoir.
Guerre
Moderne 2.
Édition complexe.
Alors là, j'ai essayé, bon, ça, enfin, on me l'a prêté il y a un peu plus d'un an, et je l'avais pas encore essayé, donc j'ai d'abord essayé quand même sur la télé pour un petit peu pouvoir comparer. La prise en main est vraiment à chier. Et donc,
tu n'es pas là pour faire une review de Modern
pas du
Warfare.
Tout. Hein, j'ai essayé donc, du coup, directement sur le gamepad. On est quand même un petit peu loin de l'écran tout de suite dès lors qu'il faut pointer la Wiimote vers l'écran pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'est une bonne initiative de Nintendo d'avoir mis. Enfin, je trouve ça vraiment excellent. Mais après, c'est un petit peu limite en ce qui concerne les jeux où il faut pointer. Donc ça marchera pour les jeux comme que j'ai cités, notamment Mario Galaxy, pour lequel on pointe uniquement pour ramasser quelques conneries, ou bien Mario Kart qui lui nécessite pas du tout le pointeur. Ah, j'ai essayé Excite Truck aussi, ça va impec. Et le rendu super bon forcément sur le gamepad vu que la résolution est tout à fait adaptée. Au jeu Wii, contrairement au 1080p.
Ouais, voilà. Ouais. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, en fait, parce que du coup, ça va être plus facile de rejouer au jeu Wii sur le gamepad que sur une télé HD.
C'est assez marrant, parce que si on prend par exemple New Super Mario Bros. Wii, sur le gamepad, graphiquement, par rapport à la version Wii U, il n'y a pas vraiment de différence. Voilà, même par exemple pour Xenoblade, on constate en fait que le jeu il est super propre sur le gamepad. Tous les jeux en fait, Mario Galaxy, il a tombé sur le gamepad.
Ah ouais.
Voilà, c'est vraiment adapté. Et, bon, ça prouve que la Wii, malgré le fait qu'elle était à la ramasse techniquement à la sortie, heureusement qu'elle avait encore quelques trucs cool techniques comme des shaders plus récents que ceux de la GameCube pour vraiment tenir le coup un petit peu plus sur la distance. Et encore maintenant sur la Wii U, quoi. Alors là, je vais requérir l'expérience ton portal. Du Dolby pour logique 2.
Tu vas requérir le sage concernant le Dolby pour logique 2.
Tout de suite.
Écoute, mon enfant.
Tout de suite. Oh, ça marche.
Le grand sultan Dolby.
Le grand sultan Dolby, j'en appelle à toi. Voilà, moi j'ai une expérience toute récente du Dolby pour logique 2. Donc pour faire vite, le Dolby pour logique 2, en gros, c'est on sort deux canaux et ça derrière ça émule le tout en 5.1 selon la fréquence des canaux.
En vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est tu sors deux canaux réels, donc c'est de la stéréo qui émule en fait un troisième canal virtuel qui serait derrière toi. Donc c'est pas vraiment du 5.1, c'est plus du 3.1 dont un qui serait derrière toi.
Ouais, mais pour
très,
le coup,
très exactement
ouais,
c'est ça.
D'accord. Ok, je l'avais pas vu comme ça, mais du coup c'est intéressant. Je sais pas si tu trouvais ça chouette toi par rapport à la stéréo tout court sur GameCube et sur Wii U. Moi j'ai trouvé qu'on perdait un petit peu. On n'est pas là pour parler du Dolby Pro Logic 2, mais c'est pour faire vite fait. J'ai trouvé qu'on perdait un petit peu en dynamisme par rapport au stéréo. J'ai l'impression que il y a des choses qui se perdent du stéréo pur pour être rebalancé derrière et que ça c'est pas bon pour la qualité, j'ai l'impression. Je sais pas toi ce que t'en penses.
Alors je vais te citer une personnalité célèbre dans le monde, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Tu te rappelles le vaut mieux une petite tous les jours qu'une grosse tous les 6 mois?
Ouais.
Bah c'est un peu pareil pour le Dolby pour Logic 2 et le stéréo. En fait, si t'as un excellent son stéréo, ça vaut tous les 5.1 du monde.
Voilà.
Donc voilà, le truc c'est que le Dolby Pro Logic 2 t'en profite vraiment quand t'as une installation qui est vraiment d'un bon niveau.
Voilà, hyper, hyper adapté. Quoi.
Voilà. Mais... Quand t'as une install qui est vraiment bien adaptée, que ce soit une très bonne barre de son ou un petit kit 5 points sympa, genre ceux de Logitech, enfin ce genre de truc là,
ouais.
Là tu, franchement t'en profites bien. Sur des jeux, il y a des jeux sur lesquels on en a juste rien à foutre, parce que là, passe devant l'écran, je pense à des trucs comme. Je sais pas, genre Mario Striker par exemple, toute l'action se passe devant toi, donc finalement, c'est de la stéréo, le 5.1 sert quasiment à rien. Par contre, il y a des jeux comme Metroid Prime qui sont plus des jeux d'ambiance et des choses comme ça, où là, le troisième canal qui est derrière toi, quand tu l'as plus, quand tu rejoues en stéréo, quand tu rejoues avec un casque, tu te rends compte que finalement t'avais tout un environnement autour de toi que tu n'as plus.
Donc, ouais, voilà.
C'est plus dans ce genre de circonstances là qu'on s'en rend compte.
Parce que pour le coup, pour avoir un petit peu essayé aussi, si je reprends sur GameCube par exemple l'exemple de Rogue Squadron 2, donc Rogue Leader, qui était absolument énorme avec le Dolby Pro Logic 2, je trouve. J'ai ressorti quelques jeux Wii là pour essayer. Il y en a aucun qui m'a fourni les sensations sonores. Voilà, donc je sais pas s'ils ont foiré leur mode Pro Logic 2 ou si c'est moi qui ai couillé quelque chose.
Alors peut-être que t'as couillé des trucs, c'est possible.
Peut-être bien, ouais. Il faudra que je réessaye, tiens. Mais voilà.
Alors, on va marquer une première pause musicale.
Absolument.
Parce que du coup j'aurai pas le temps de faire ma petite chronique, mais c'est pas grave.
Tu la garderas pour la prochaine fois.
Je la garderai sous le coude, mais je vais faire comme Cyrard en fait, je vais le garder pendant 3 mois et puis après je fais la grève.
Ouais. Pour le coup, j'autorise les auditeurs à me flageller de tout ce qu'ils veulent pour ne pas avoir une heure chronique de Mortal.
C'est pas grave. Ils auront droit à du Mortal autant qu'ils veulent partout. Ça va être horrible. Donc, on va s'écouter un petit morceau de l'OST de Megaman X, qui est le thème du niveau Spark Mandrill. Spark Mandrill, il me semble que c'est le niveau du requin robotique, si je dis pas de bêtises. Et c'est un morceau un peu particulier puisque c'est la reprise par Smooth McGroove, dont nous sommes au dojo de très 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 grands fans.
Absolument.
Voilà, donc on va se retrouver dans un tout petit peu moins de 2 minutes pour parler de The Wonderful 101. À tout de suite.
À tout de suite.
Et nous voilà de retour. Bref. Non, c'est bien. Non, voilà, on a fait Smooth McGroove, c'est bien. Il y aura un deuxième morceau de Smooth McGroove, mais je vais pas dire tout de suite ce que c'est, qui est aussi issu de la bande originale, pardon, de Megaman.
Va falloir faire gaffe qu'il nous demande pas des royalties.
Moi, je pense pas, parce que de toute façon, déjà, il en paye pas à Capcom, donc.
Puis on va lui faire vendre des CD.
On va lui faire vendre
des vues sur YouTube.
On va lui faire vendre tout ce qu'il faut. Donc, on va parler de The Wonderful 101, un petit jeu qui paye pas de mine. Sur Wii U, alors nous avons je vais pas dire un grand connaisseur parce que ce serait un petit peu exagéré, nous avons Gezeuch, Irène pour les intimes donc, qui...
Bonsoir Irène.
Non, mais, commencez pas à m'appeler comme ça, sinon je crois que ça va rester quoi.
Je sais que ça reste les enfants.
J'y tiens pas.
Il y a personne qui a une canette.
Non, personne n'a de canette pour décapsuler. Les traditions se perdent, c'est tout par avolo, c'est vraiment rime, pio dame. Non, mais c'est. T'as pas un Doritos en plus pour.
Non,
pour
c'est fini, c'est ça, c'était l'an dernier ça.
Ouais. Donc, The Wonderful 101 par Platinum Games. Alors, Platinum, c'est quand même un très gros studio. Je pense que c'est le studio japonais le plus talentueux en ce moment.
Alors, je sais pas si on peut dire gros, mais en tout cas, on peut dire en effet talentueux, puisque grosso modo, Je crois qu'au niveau du public occidental, les jeux qui viennent du Japon ou qui sont attendus en dehors des gros jeux Nintendo de quelques jeux Square, c'est surtout, je crois, ce qui sort de chez Platinum Games, j'ai l'impression.
Je me permets juste de corriger, le studio japonais le plus talentueux actuellement, c'est Nintendo Tokyo.
Oui, non, je remercie Oscar pour avoir rétabli cette vérité, mais je veux dire, en dehors de nos maîtres et dieux à tous, c'est quand même les meilleurs. Alors après, petit, tu es doué, très doué, mais tant que je serai dans le métier, tu seras toujours que le second. Tu vois, ok, mais je veux dire, bon, après, à côté de Nintendo Tokyo, tu peux pas test, quoi. Donc voilà, donc c'est quand même un des très gros studios japonais du moment.
Le problème, c'est que pour l'instant, ils ont jamais eu de gros succès, quoi, au niveau commercial. Ils lancent des nouvelles licences, ça plaît à un certain public, mais un public visiblement assez de niche, parce que pour l'instant, tous leurs jeux, par peut-être Bayonetta et sur la longueur et encore.
Je suis même pas sûr, un peu plus d'un million pour le lancement.
Ouais, ce qui est pas terrible, quoi. Enfin, c'est moyen.
Ce qui est pas énorme, mais c'est pas non plus dégueulasse, quoi.
Pour une nouvelle licence, c'est bien, hein.
Ouais. Bah, c'est ça qui est bien avec Platinum, c'est qu'ils lancent au moins eux, c'est un peu les seuls à lancer que des nouvelles licences, quoi. Ouais,
c'est un peu leur credo. Je crois que s'ils font Bayonetta 2, c'est surtout parce qu'il y avait de la demande, qu'ils ont eu peut-être la proposition de Nintendo, mais je pense
que sinon
ils se
seraient
aventurés sur autre chose. Ouais, voilà.
Typiquement, Camilla, qui est quand même la star du studio, il a jamais fait de. Il a produit des suites, mais en tant que réalisateur, il n'en a jamais fait. C'est, par exemple, Bayonetta 2, c'est pas lui qui va le faire. Il a préféré se concentrer sur une nouvelle licence qui est The Wonderful 101.
Et Beautiful ouais. Joe, c'était lui aussi à l'origine ou c'était son
oui,
gros parc
c'est lui, c'est pareil, c'est pas lui qui avait fait les suites après.
Il a commencé en faisant Resident Evil 2, qui est une suite, mais il n'avait pas travaillé sur le 1, donc voilà, il a bossé sur une suite, mais c'était
puis,
son
puis
premier
suite,
Resident Evil.
Une suite qui n'avait pas grand rapport avec le premier au départ aussi, donc enfin.
Ouais, quand même.
Ouais, enfin bon, les liens ils ont quand même été faits a posteriori, quoi, donc. C'est-à-dire, c'est le même gameplay et tout ça, je suis d'accord, mais au niveau scénario, c'est...
Pour peu qu'on puisse parler de gameplay.
Pour peu qu'on puisse parler de gameplay, voilà, bon, tu sais, le troll de Resident Evil, c'est fait.
Je suis pas de Resident Evil non plus, mais enfin voilà, lui, il a fait Resident Evil 2, après il a fait Devil May Cry, après Beautiful Joe, Okami. C'est lui Okami, je sais plus, j'ai un doute.
Oui, c'est lui.
Ouais, c'était lui.
Vu la qualité du jeu, franchement.
Et Bayonetta, et The Wonderful, donc à chaque fois, il fait pas de suite, quoi.
C'est un sacré CV, mine de rien.
Ouais, voilà, alors donc, clair. Pour en revenir à The Wonderful 101, qui est donc le dernier bébé de Camilla, puisqu'on est, on en est à peu près là, Aguzo, est-ce que tu pourrais nous expliquer très très rapidement le principe du jeu, en essayant d'être clair, sachant que c'est un jeu qui est très difficilement explicable, donc de toute
façon, tu vas pas
être clair.
Oui, voilà. à la base, c'est un beat'em all, mais un beat'em all très différent de ce qui existait jusqu'à maintenant, parce que d'habitude les beat'em all, il y a un seul personnage, quoi, c'est Devil May Cry, Bayonetta, tu diriges un personnage, et là on en dirige énormément jusqu'à 100, d'où le nom. Et en plus de ça, Camilla a voulu se servir du gamepad pour ajouter quelques à côté, quoi, pour se transformer, parce que l'une des nouveautés de ce jeu par rapport aux autres beat'em all, c'est que on crée des formes, en fait, avec le gamepad. Donc on fait un rond, ça va former un point, un trait, ça va former une épée, et ainsi de suite. Et donc il s'est servi du gamepad pour exploiter cette idée, mais on peut aussi le faire avec le stick droit, ce qui est même plus facile si on veut faire des bons scores, quoi.
Alors, d'ailleurs, je me permets, moi j'ai jamais réussi à le faire avec le gamepad, alors je suis peut-être manchot des doigts, mais j'ai pas compris comment on faisait avec le gamepad.
Bah, j'ai commencé au début à faire avec le gamepad. Moi, je trouvais que c'était plus simple, en fait, je trouve, avec le gamepad. Enfin, faut trouver les bonnes combinaisons, trouver bien, enfin, ce que demande le jeu, quoi, pour bien faire les formes comme il faut. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, avec le stick droit, c'est plus rapide. Et vu que c'est un jeu de scoring, où le but c'est de faire des combinaisons et le plus rapidement possible, etc. Le stick droit, en fait, finalement, une fois qu'on le maîtrise bien aussi, pareil, les différentes techniques, ça devient plus rapide. Donc maintenant, je privilégie le stick droit, quoi, plutôt que l'écran du gamepad.
Même pour l'épée, t'arrives à faire plus rapidement le... Parce que l'épée, c'est un trait, quoi.
Oui, mais le truc, c'est que le trait, t'es obligé de lâcher une main, quoi, pour le faire sur l'écran du gamepad. Alors que si t'as les deux mains directement sur...
Ouais, sur le stick.
Après,
quoi, ouais.
A priori, le stick est plus accessible quand même, donc bon, je suis pas... assure que tu gagnes du temps, même pour l'épée, quoi.
Alors, petite question pour moi qui n'ai fait que la démo, je crois avoir remarqué, mais je suis pas certain du tout, que quand on faisait l'épée au gamepad, plus le trait était grand, plus l'épée était grande. Est-ce que c'est...
Oui, voilà, ouais. Mmh, oui, c'est ça.
Alors, la conversation devient tellement sexy.
Et ça marche pour toutes les armes. Toutes les armes, c'est pareil. Plus la forme que tu vas dessiner va être grande, plus elle sera puissante. Ah, et ouais. Il te faut, tu peux pas faire une forme très grande.
Plus c'est grand, plus c'est puissant. Donc... Non, mais continuez, hein. Franchement, c'est vraiment très très plaisant comme conversation.
Je crois que ceux qui jouent à Pokémon XY seront parfaitement en phase avec cette conversation.
Mais tu sais que avant, quand tu tapais Pokémon X dans Google Images, il se passait des trucs bizarres. Mais
je sais, tu le dis tous les deux de Java. Pour le coup,
là, ça reste dans la thématique.
Pour le coup, camarade Guezeus, tu l'as terminé, Wonderful 101?
Et non, pas encore.
Pas encore.
Non, parce que moi je suis assez complétiste dans mon genre. Ouais. Moi, j'aime bien terminer les jeux, essayer de tout trouver.
On l'a vu sur Pikmin.
Oui, voilà, par exemple. Et du coup, je fouille les niveaux autant que je peux. Enfin, il y a énormément de choses qui sont cachées, des passages dans certains niveaux, il y a des passages qui sont cachés avec des aux ouais. ennemis et tout ça qui sont planqués, il y a des dossiers, des figurines, il y a énormément de trucs à récupérer, quoi, et finit pas, quoi.
Du coup, t'en es pas non plus encore à la phase de rejouabilité pour savoir si le jeu sur la longueur, comme les jeux Platinum Games.
Parce que là, les niveaux, en fait, je les refais pour gagner plus d'argent, pour pouvoir se débloquer, parce qu'il y a plein d'armes, plein d'objets à débloquer une fois que t'as fini un niveau. Et donc, je termine plusieurs fois les niveaux pour essayer d'améliorer mes scores, parce que c'est un jeu de scoring, donc le but, c'est quand même d'essayer d'avoir les médailles Platinum, quoi. Donc, pour avoir les médailles Platinum, il faut faire des super combos, aller super vite, et ça devient très très dur. Mais vu que c'est découpé en petites portions, dès que tu rates, tu peux recommencer un petit peu avant, donc t'as pas tout le niveau à recommencer, heureusement.
Donc c'est un jeu de scoring, mais qui reste quand même assez... équitable entre guillemets, dans la mesure où finalement si tu rates t'as à t'en vouloir qu'à toi-même et
si tu
rates un morceau en réalité tu peux recommencer ce morceau là, c'est une espèce de multisegment pour finir un niveau en platine. Mais du coup c'est parce que toi qui l'as quand même un petit peu scoré tout petit peu, ça te fait pas des niveaux un peu longs, enfin ça devient pas quand même un petit peu long et répétitif au bout d'un moment, parce que ça reste quand même un beat'em all malgré tout, je veux dire il y a pas 50 000 approches à une situation.
Non, mais il faut le faire à petite dose, en fait. Enfin, il faut... Moi, ce que je fais, c'est ça. Je fais un niveau de temps en temps, mais que je vais refaire plusieurs fois en essayant de l'améliorer, quoi, et d'avoir le meilleur score possible au final, quoi, en essayant de trouver tous les objets cachés, etc. Mais c'est vrai qu'il faut pas... Je pense que c'est pas le genre de jeu où qu'il faut enchaîner directement et se taper tous les niveaux à la suite. C'est un coup à te dégoûter, quoi. Donc, je pense qu'il faut y aller doucement, quoi. Faut faire un niveau ou deux, tous les soirs.
Tu perds pas trop en histoire, en narration ou quoi? Alors, l'histoire, rien à foutre.
Non, l'histoire reste assez simple. C'est rigolo, il y a des petites blagues et tout, mais bon, sinon tu vas pas perdre grand chose à faire comme ça par petite dose, quoi.
Donc c'est du Platinum Games, comme d'habitude, orienté gameplay, add-onf, difficulté et tout.
Mais le gros défaut du jeu, il y a deux gros défauts, c'est déjà la caméra, vu que la vue est en 3D isométrique, alors souvent la caméra est assez, sur certains passages, c'est assez foireux, surtout que vu le nombre de personnages à l'écran, à partir du moment où t'as beaucoup il se passe beaucoup de choses à l'écran. T'as un peu de mal à situer tout ce qui se passe, quoi. Donc ça c'est un peu un problème. Et sinon le gros problème, je trouve, du jeu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tutoriel. Enfin, il y a un tutoriel, mais vraiment très minime. Et pour apprendre à bien y jouer, c'est un peu à toi d'aller chercher.
Apprendre à bien y jouer ou apprendre à bien le scorer, parce qu'on t'apprend quand même un minimum. Non, parce que on t'apprend quand même les techniques de base. Tu les apprends plus ou moins au fur et à mesure. On te dit vas-y, tu fais un point, tu tournes le truc. Enfin, même dans la démo, t'avais. Enfin.
Ouais, je trouve la démo, moi, elle est assez didactique. Enfin,
relativement didactique. C'était
voilà,
extraordinairement facile. Mais voilà.
Ça expliquait pas toutes les subtilités, mais voilà, la démo, c'est vrai qu'elle expliquait quand même les bases. Mais après, tout ce qui est les à côté, les techniques un peu cachées, secrètes, enfin, elles sont presque secrètes du coup, parce que c'est un peu à toi de les trouver ou les maîtriser.
Ouais.
Y a un truc qui était bien, c'était le Nintendo Direct qu'ils ont fait spécialement pour le jeu. Mine de rien, c'est une bonne chose je conseille à ceux qui ont acheté le jeu et qui sont un peu perdus, quoi, de revoir ce Nintendo Direct pour déjà bien apprendre les bases et un peu les techniques qui sont expliquées là-dedans, quoi. Et après, il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent les techniques de pro. Parce que je trouve quand même que l'intérêt de ce genre de jeu, c'est quand même de bien le maîtriser pour pouvoir, pouvoir s'éclater, quoi. C'est un peu comme un jeu de baston. Un jeu de baston, si tu maîtrises pas tes personnages, tu t'emmerdes vite, quoi. Et je trouve que c'est pareil pour ce jeu, c'est que à partir du moment où tu maîtrises bien les esquives, les techniques, les combos et tout ça, tu commences à, enfin, t'aimes de plus en plus le jeu, quoi.
Mais du coup, ouais, parce que il y a des trucs qui sont quand même assez compliqués à faire. Enfin, je sais pas, les esquives. Esquives, par exemple, moi, j'arrive jamais à les sortir au bon moment. Enfin, en plus, elles sont sur les gâchettes. Je trouve pas que ce soit super pratique.
Faut apprendre. C'est tout un apprentissage.
C'est un apprentissage. Mais je trouve que là, en l'occurrence, enfin, après, c'est l'expérience du, entre guillemets, du néophyte, parce que j'ai joué trois fois à la même démo, en réalité. J'ai joué à la démo chez moi. J'ai joué à la démo à deux événements de Nintendo. Et j'ai toujours eu l'impression, en fait, que le timing qu'on nous demandait pour les esquives, il était juste, mais juste horrible, quoi. C'était vraiment à la microseconde près si tu voulais vraiment arriver à faire l'esquive proprement sans te prendre la déflagration du mec d'en face.
Ah, mais c'est ça qui est assez intéressant, je trouve.
Ouais, c'est les jeux Platinum, quoi. Souvent, ils sont comme ça, ils sont très. Ils demandent beaucoup, quoi, aux joueurs. C'est à l'inverse de beaucoup de jeux d'aujourd'hui où ils vont un peu te mâcher le travail, quoi. Là, c'est vrai que c'est à toi de bien savoir, bien appuyer sur le bouton au bon moment. Faut apprendre à le faire, quoi. Parce que tu peux pas te dire, bon, j'appuie là sur le bouton et de toute façon, ça va marcher pendant 5 secondes et voilà, j'ai rien à faire.
Non, ça change vraiment, des QTE.
Voilà, ouais. Et c'est, pour en revenir au tutoriel, minime, c'est bizarre parce que, enfin, c'est bizarre. Vu que c'est une exclusivité pour la Wii U, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendait à un jeu plutôt plus simple et avec un super tuto. Enfin, Nintendo a un peu l'habitude de faire de mettre des tutos partout et même d'en mettre trop, quoi. À chaque fois, presque, il t'explique comment on joue à Mario à chaque fois. Je pense que tout le monde sait le jouer, quoi. Et là, c'est pour ça que The Wonderful 101, mine de rien, le tuto est assez minime et le gameplay et tout est encore plus compliqué, je trouve, à maîtriser qu'un Bayonetta, par exemple. Alors que beaucoup de monde, je pense, ils s'attendaient, vu que ça arrivait sur une console Nintendo, que ça allait être plus simple, qu'ils allaient
le design qui faisait quand même très clairement cartoon. Cartoon.
Oui, oui.
C'est très difficile à décrire, en fait, parce que ça fait ça me rappelle, moi, le premier truc que ça m'a rappelé, c'est les Powerpuff Girls, je sais plus ce que c'est le titre.
Oui,
c'est les super nanas, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est tous les trucs qui avaient été faits par Cartoon Network à la fin des années 90, début des années 2000, genre merde, j'ai plus les noms en tête, mais effectivement les super nanas, Johnny, comment, enfin bon, bref, c'est pas le souci. Ça m'a rappelé exactement ça dans le design des personnages, dans le style un petit peu décoiffant du truc. C'est un mélange entre Beautiful Joe et ça, quoi, en plus brillant, parce que je sais pas pourquoi est brillant.
Il voulait que ces personnages ressemblent à des figurines, en fait. Du coup, je pense que c'est un peu pour ça que les personnages ont cet aspect un peu plastique, brillant, un peu bizarre. Et c'est vrai que c'est un peu spécial. Je suis pas super fan non plus du design. Ce qui est bien, c'est que c'est original, quoi. Ça ressemble à rien. Donc c'est toujours bien d'avoir des directions artistiques qui changent un petit peu. Mais c'est vrai que c'est très brillant et c'est pas. Moi, je suis pas super fan. Il y a eu une
moi,
image.
C'est ça.
Ils ont montré une image des premiers prototypes un peu du jeu et qui avait une ambiance un peu plus dark et je préférais, moi.
Ils ont montré ça sur leur blog de développement qu'ils avaient entamé.
Ils l'ont montré partout sur le Twitter de. Moi, je crois que sur le Twitter de Nintendo, il avait eu une interview de Camilla et puis c'est à ce moment un événement, quoi, et c'est là qu'il avait un peu parlé de ça, des premiers prototypes du design et tout du jeu. Et je crois que même le Twitter de Nintendo, ils avaient relayé ça. Et, enfin, on voit juste 2-3 images, je sais plus exactement. Mais ils ont un peu. C'était un peu plus dark, ouais. Là, ils ont un peu. C'est un peu plus gentil, mais non. Mais bon, on voit pas.
D'accord, donc c'est. Ok, donc. Globalement, est-ce que c'est un jeu qu'on. Enfin, c'est à quel.
Est-ce que ça vaut ses 50 boules
Est-ce que ça vaut ses 50 boules, voilà. On va dire comme ça. À quel type de population ça s'adresse?
Pour moi, très largement.
Et est-ce que ça vaut ses 50 boules?
Pour moi, très largement. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui. Va pas plaire à tout le monde. Et je conseille de faire la démo, mais. Même de la faire plusieurs fois, quoi. Parce que. Faire la démo une seule fois, je pense qu'on. Ça suffit pas pour bien comprendre le gameplay. Et comme j'ai dit, je pense qu'il faut faire la démo, puis un peu se renseigner sur comment bien y jouer, parce que c'est à partir du moment où on commence à bien y jouer qu'on trouve le jeu vraiment bien. Alors que il y a beaucoup de monde, je pense, qui n'ont pas trop aimé parce que ils ont fait la démo, ils ont dit que c'était bordélique, ils n'arrivaient pas trop à sortir les coups, les combos et tout ça. Et bon, peut-être qu'ils se sont dit,
ils ont essayé qu'une fois la démo, quoi.
Ça a pas l'air terrible. Mais ouais, je conseille d'essayer au moins peut-être 2-3 fois la démo pour lui donner sa chance.
Oui, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai chopé le jeu, mais comme j'avais pas le temps d'y jouer, que je voulais quand même voir à quoi ça ressemblait, j'ai juste fait la démo.
Il a téléchargé la démo. J'avais la flemme de sortir le jeu.
C'est-à-dire, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le jeu, j'ai téléchargé la démo. Tu vois, pour pas commencer tout ça. Et c'est vrai que j'ai fait la démo, je l'ai faite une fois, je me suis dit, c'est bien le bordel, ça a l'air cool dans l'ambiance, puis je vais m'y remettre. Et j'ai fait la démo 3 fois en tout, et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai découvert des trucs par moi-même, et que j'ai compris de plus en plus où le jeu voulait en venir.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment le genre de jeu qui est, plus tu vas le faire, plus tu vas l'apprécier, quoi. Donc,
exactement. Et d'ailleurs, il est trouvable à 40 boules pour ceux qui seraient intéressés.
Par contre, donc, c'est déconseillé aux gens qui aiment bien faire le maximum de jeux et un peu speeder leur but c'est d'aller de finir le jeu le plus rapidement possible.
Ouais, voilà, il y a une phase d'apprentissage.
C'est pas du tout pour eux, quoi. Je pense que c'est vraiment un jeu qu'il faut bien se consacrer. Faut s'y consacrer.
Et en même temps, je suis certain que dans 2 mois, il y a un japonais qui le speedrun à 5 minutes par niveau tout en platine.
Ah ouais, mais il y a déjà sur YouTube, on voit déjà des vidéos assez impressionnantes, quoi. Où tu te dis, mais on peut faire ça aussi vite. Il y a déjà des gros tarés, quoi, sur YouTube, qui enchaînent les médailles platine partout à chaque niveau. C'est impressionnant. Surtout, d'autant plus quand toi, tu t'essayes d'y jouer, que même si tu progresse, tu vois qu'il y a une marge de progression encore énorme, quoi, avant d'arriver au niveau de certains pros, quoi.
Super.
Je me permets de faire une petite parenthèse. Alors, Syrah est entré dans le bar, je ne sais pas pour quelle raison.
J'allais justement faire cette parenthèse. Je crois qu'il a réussi à s'authentifier avec l'authentification spéciale de jeu du 14 octobre. Est-ce juste Syrah? Voilà.
Et il voulait. Alors, je me permets de citer un très très bon jeu de mots. Donc, il propose qu'on francise le nom et qu'on parle de Magnifique 101 par jeu platine. Moi, je suis assez d'accord sur le principe.
Bonjour messieurs, je viens juste prendre une petite bière.
Nous vous la servons à l'entracte.
On la sert à l'entracte.
Non, je la prends tout de suite.
On va faire l'entracte tout de suite.
Merde, ça coule partout.
Ok, donc.
Santé monsieur.
Ça, c'est fort.
Oh, c'est tout.
On est bien au Java. Bonne soirée messieurs.
Bonne soirée, monsieur.
C'était la guest star. Non, par là, c'est les toilettes.
Voilà, c'était la guest star. Voilà, donc on va marquer une seconde pause musicale. D'ailleurs, Syrah est entré dans les toilettes, les vraies toilettes qu'on a.
Monsieur est ressorti des toilettes.
On va marquer une seconde pause musicale et on va encore s'écouter un petit morceau de Smooth Mac Groove. Et c'est encore un extrait de la BO de.
Gloire à lui.
Et cette fois-ci, c'est le niveau de Storm Eagle. Donc, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite.
Bonsoir, amis auditeurs qui nous suivaient par millions et par milliards. Donc pour cette troisième partie, on a Oscar qui va nous parler chiffres, puisque c'est un peu sa spécialité. Et pour parler chiffres, on a choisi le sujet, c'est dur à dire 50 fois de suite. On a choisi le sujet simplement des nouveaux modèles de commercialisation de Nintendo, vu qu'on a entendu parler tout récemment des Wii Fit U, Wii Sports Club qui vont pas être commercialisés exactement de la même manière que d'habitude. Donc voilà, Oscar, est-ce que tu veux commencer par une petite le petit point sur la chose?
Oui, donc on pensait commencer par Wii Karaoke.
Ouais.
Alors, enfin, Wii Karaoke, il est un peu, il rentre pas vraiment dans la même bande que Wii Sport et Wii Fit parce que lui, son concept même fait que Nintendo ne peut pas le vendre autrement. Parce que l'idée de base de Wii Karaoke, c'est de faire comme un vrai karaoké au Japon. Enfin, il y en a aussi en France, mais bon, il y en a aussi au Japon. De faire comme un vrai karaoké, c'est-à-dire tu payes pour une heure ou pour plusieurs heures et t'as accès à tout le catalogue de chansons.
Voilà.
Et c'est ce qui fait que justement c'est un concept intéressant et plutôt rare en France. Parce que justement, t'as pas à acheter un jeu, peu importe le prix, et te retrouver avec juste une trentaine, voire une cinquantaine de chansons, et ensuite devoir payer 2€ par chanson en DLC.
Exactement.
Alors, pour m'être déjà retrouvé dans une maison de vacances où il y avait que SingStar, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te fais quand même chier, parce que t'as 30 morceaux par disque, enfin quand t'as 2 ou 3 SingStar, t'as genre 30 morceaux par disque, il y en a une vingtaine qui sont à chier, il y en a une dizaine que tu vas faire une fois, et voilà. Et au bout d'un moment, tu finis par raccrocher les crampons, alors que c'est vrai qu'avoir une bibliothèque qui est disponible en permanence, c'est intéressant, si
voilà,
t'aimes bien faire du karaoké.
Surtout que c'est pas une bibliothèque de l'opette, au Japon, il y a je sais pas combien de dizaines ou de centaines de milliers de...
Alors, au Japon, je crois qu'il y en a plus de 10 000 des chansons, donc... Au Japon, dans la version Wii Karaoke du Japon, là c'est vraiment comme le karaoké, mais à la maison. Ça c'est vraiment le top. En France, on en a 1500. Quand même nettement moins.
Et essentiellement des morceaux en anglais.
Que des morceaux en anglais.
Que des morceaux.
Enfin, il y a peut-être 2-3 morceaux japonais, j'en ai pas vu, mais en tout cas, il n'y a aucun morceau français.
Ouais.
Alors après, on a un catalogue qui est plutôt bien varié, où il y a... Enfin, après, ça dépend des goûts, mais
1500 chansons, il y a déjà de quoi faire. Ce qui est un peu dommage, c'est que finalement, c'est un catalogue européen, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas un spécifique à chaque pays,
anglophone.
Finalement.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement.
Disons qu'à la base, Joy Sound, c'est quand même, c'est une société de karaoké japonaise, si je dis pas de bêtises, c'est ça.
Exactement.
Hein, voilà.
Le problème, c'est que Joy Sound, elle est bien implantée au Japon. Donc, au Japon, ils ont tous les droits et tout. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que Nintendo a quand même fait fort, mine de rien, en réussissant à sortir le jeu en Europe. Malgré tout, sur les... Donc déjà, on a, entre guillemets, que 1500, parce que ça reste quand même balèze. J'ai testé l'heure gratuite, parce que donc on a une heure gratuite qui est fournie télécharge de jeu, téléchargement gratuit, évidemment.
Ouais, on va voir après.
Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je sais plus combien de chansons j'en ai testé, mais il doit y en avoir bien 15% sur celles que j'ai testées. Ils ont clairement pas eu tous les droits, c'est-à-dire que t'as pas la vraie chanson originale.
Ouais, d'ailleurs, Nintendo précise sur le site de Nintendo France, on peut lire au fond de la page de Wii U Karaoke que certains morceaux ont été réenregistrés.
Voilà.
C'est aussi un grand classique des karaokés, même japonais.
Ouais,
hein,
ou des compositions.
Oui, effectivement, c'est pas non plus. Oui, voilà.
Les mecs ont rarement les droits des chansons, enfin, ont rarement les droits d'exploiter la chanson originale. Ils ont le droit de le réinterpréter. L'intérêt étant qu'on paye les droits d'auteur, mais pas les droits d'interprète.
Voilà.
Et en général, on paye un peu moins cher. C'est vrai que pour un karaoké où on fait de la diffusion.
Mais, alors,
assez massive, c'est intéressant.
Par contre, je t'interromps parce que dans ce cas-là, quand ils ont juste payé le minimum, t'as juste une version, t'as juste l'instrumental, donc qui est pas l'instrumental original, qui est une nouvelle instrumentale, mais t'as pas du tout de paroles. C'est-à-dire, ils ont même pas employé des mecs pour chanter les paroles. Après, on est censé
chanter. C'est un peu le fail.
Si tu connais pas l'air du morceau, t'es foutu en fait.
Mais voilà,
il y a vraiment aucun morceau.
Si tu connais pas l'air du morceau, tu laisses tomber.
Et il y a aucun morceau où il y a quelqu'un qui chante pour un petit peu t'aiguiller ou alors.
Ils en ont
quelques-uns quand même.
Non, il y a quand même la majorité des morceaux. Ils ont quand même payé la chanson originale où t'entends la vraie voix de l'interprète original. Et là, ça marche très bien.
Ah oui, d'accord.
Alors après, juste vite fait pour finir ma petite review de mon heure de test, le jeu et les menus sont plutôt bien foutus et c'est là où ça fait vraiment comme les karaokés japonais parce que pour ceux qui connaissent, Sierra doit connaître. Au Japon, t'as une sorte de tablette, enfin c'est pas vraiment une tablette, c'est le principe d'une tablette où tu peux regarder, tu peux parcourir la liste des chansons disponibles et les choisir. C'est-à-dire que par exemple, vous faites une soirée à 3-4. Il y en a un ou deux qui sont sur la chanson, et pendant ce temps, les autres qui attendent leur tour, ils peuvent tranquillement sur la tablette, donc là en l'occurrence sur le gamepad, chercher la chanson qu'ils vont enclencher après.
Ah oui, à voir si c'est confortable, si les gens n'utilisent pas un micro, mais le gamepad comme micro, vu que le gamepad est utilisé comme micro.
Pas testé le gamepad comme micro. Il faut savoir aussi que n'importe quel, je sais pas, mais en tout cas, on n'est pas obligé d'acheter un micro Wii U. Moi en l'occurrence j'ai pu tester avec mon micro Rock Band qui était un Rock Band version 360, ça a marché dessus sans problème.
Alors pour le coup c'est un modèle qui arrive en Occident et qui bouleverse totalement ce qui se faisait avant, vu qu'avant les jeux de karaoké genre de trucs là c'était t'achetais le jeu et puis après t'achetais les morceaux à la pièce quoi.
Voilà. Comme je disais, c'est vraiment tout l'intérêt du titre, parce que là ça marche bien. Donc alors les prix c'est 2€ pour une heure, c'est le prix de base.
Ouais.
Alors après, il y a, je crois, 5€ pour 3 heures et...
C'est 5€ pour 24 heures.
Oui, pour 24 heures, pardon. 5€ pour 24 heures et 15€ pour 30 jours.
D'accord, et... mais du coup, par rapport à un vrai karaoké, ça fait à peu près le tarot. Enfin, par rapport à un karaoké japonais, fait beaucoup moins cher, beaucoup plus cher, ou
bah,
c'est des prix équivalents?
Par rapport à un karaoké japonais, c'est moins cher, mais en général, les karaokés japonais, quand tu payes une heure... Donc c'est généralement un peu plus cher. Enfin moi ce que j'avais fait c'était dans les 5€ quoi à peu près. Mais t'as les consoles gratuites. C'est-à-dire tu peux commander ce que tu veux en alcool.
Alors,
quoi. Enfin,
attends, tu peux commander cocktail et tout. Là t'as pas les consoles gratuites quoi.
Et là il y a ouais.
C'est la loose.
Sauf si tu viens au dojo bar où là on peut tout fournir.
Franchement
là.
Moi je vous propose un défi pour la semaine prochaine. On fait un karaoké sur le dojo bar en direct. Franchement je vous mets au défi.
Challenge accepted.
Je pas personnellement.
Alors pour revenir un peu sur tout ce qui est modèle commercial. Enfin avant de revenir un peu sur tout ce qui est modèle commercial, il y a un truc que j'ai pas capté sur le Wii Karaoke U, c'est qu'il est Peggy 3. Genre à 3 ans,
c'est normal,
tu connais les paroles et tout.
Ouais,
tu...
mais attends, je te rappelle que Donkey Kong Country Returns, il est Peggy 3 aussi.
Ouais, mais ça c'est pas grave.
Je suis un adulte, j'ai 29 ans, j'ai eu du mal à le terminer quoi.
Non mais alors attends, il y a une petite subtilité parce que Peggy 3 c'est quand il y a vraiment pas de violence donc.
Ils ont pas mis les chansons
ouais,
de
ça,
MPM
c'est
dedans.
Mais si, enfin justement parce que t'as quand même des. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont fait gaffe à ça. Je pense qu'ils ont fait gaffe à ça. Finalement c'est marrant maintenant que tu le dis parce que typiquement par exemple il y a des chansons des Rolling Stones, il y a pas Satisfaction par exemple.
Ouais, mais on sait tous que, enfin, nous, dans notre culture latino-francophone, on accorde de l'importance au texte. On sait tous que les Anglais, ils écoutent la musique, tu fredonnes n'importe quoi derrière, ils s'en foutent, quoi. C'est quand même un peuple d'illettrés, les anglophones.
Ouais, non mais peu importe.
Il y a
rien,
c'est pour ça que je soulevais la question, parce que ça m'a paru un petit peu, voilà, c'est Peggy 3, ok, d'accord, mais.
Mais non, mais oui, mais justement, les Guitar Hero et compagnie, ils sont Peggy 12. Parce que dedans, t'as des chansons de rock ou t'as quelques gros mots dedans, et voilà.
À partir du moment où le, je pense qu'à partir du moment où le, mais c'est un petit peu comme les, c'est un petit peu comme sur les Peggy 18 plus ou les trucs comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as un élément,
voilà.
Qui est, voilà, je veux dire, globalement dans un film, on voit une beat, ça y est, paf, c'est 16 plus, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas, tu t'y échappes difficilement. Je pense que là, c'est un petit peu le même principe.
C'est celle de Syrah.
Surtout si celle de Syrah. À partir du moment où t'as le parental advisory, explicit content sur un album, comme il y a aux États-Unis, le truc où on te dit, il y a des gros mots dedans, je pense qu'ils sont obligés automatiquement de le classer en 12 plus ou quelque chose comme ça.
Ouais, exactement. Ouais.
Donc là, s'il est 3 plus, ça veut dire qu'ils ont effectivement écrémé le truc, écrémé
ou
un
alors
petit
qu'ils
peu.
Ont
alors
pas...
après, pour du karaoké, t'as peut-être pas envie de chanter du Motorhead, quoi.
Bah non, à mon avis, c'est pas qu'ils ont écrémé le truc, c'est qu'ils sont, c'est qu'ils, simplement, les chansons les plus vulgaires, on va dire, ils ont évité de les prendre. Enfin, comme je disais l'exemple de Satisfaction, qui est une des chansons les plus connues des Rolling Stones, je crois pas qu'elle y soit, et à mon avis, c'est parce qu'ils ont voulu faire en sorte que ce soit Peggy 3.
Ah oui, d'accord. C'est assez intéressant comme remarque.
Pour en même temps, je me dis, sincèrement, je reprends, dans un anniversaire de môme de 7-8 ans, c'est le genre de truc qui peut super bien marcher, quoi. Donc effectivement, c'est quand même dommage de se priver de ce public-là. Je pense que les parents laisseraient faire, mais tu veux, là, tu garantis aussi aux papa et aux mamans que tout est safe dedans et que les gamins, ils peuvent s'éclater, quoi.
Ouais, enfin
je me mets à la place du père de famille. Pardon.
Non, mais ouais. si le père de famille empêche son enfant d'écouter Rolling Stones parce qu'il considère que c'est trop violent, c'est un peu qu'il est con. Personnellement,
Moi j'interdis à mes enfants d'écouter
nous
Rolling Stones par principe.
Pas sur ce terrain. Mais alors pour revenir sur Joy Sound, c'est pas leur premier. truc de karaoké pour console, puisqu'il y avait déjà une version Wii qui existait au Japon, qui est sortie en 2008, je crois, qui était éditée par Hudson.
Il y en avait plusieurs, même.
Là, dans le disque, il y avait 70 morceaux, mais je ne sais pas s'il y avait possibilité d'avoir accès à un catalogue plus large.
Non, non, non. Justement, ils ont vraiment commencé avec la Wii U. Oui. Parce que, c'est-à-dire que c'est un peu étrange, parce que
non,
final,
il est sur
s'auto-concurrence aussi. En faisant ça.
Il est sur PS3 aussi. Ils n'ont pas commencé avec la Wii U. Il est sorti en 2011 sur PS3 et
c'est possible, ouais.
Apparemment il y avait 1500 pistes de disponibles. Alors c'était un système de financement à peu près comme ce qu'on connaît ici, sauf qu'au prix japonais ça revenait à peu près deux fois moins cher, c'est-à-dire que pour une heure ici c'est 2 euros, là-bas tu payais 2,25 euros mais pour 24 heures. Et poum poum poum. Et alors un mois chez nous c'est 15 euros et chez eux c'était l'équivalent de 7,50 euros, donc 1000 yens.
Oui mais est-ce qu'ils offraient la boisson ou pas?
C'est toujours le mystère. Est-ce qu'ils ont des dojo bars ou pas? Ils ont un dojo bar. Ils ont un dojo bar sur Taïwan, je crois.
Il y a Sireur sur le chan qui nous dit que le dojo, lui, il est carrément 16+ depuis quelques jours.
Minimum.
Et que minimum. La V8 sera 18+.
Mais voilà, pour le coup, Wii U Karaoke, c'est peut-être le premier jeu qu'on peut apparenter plus, non pas à un produit, mais à un service.
Oui, voilà, exactement. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que lui, il se met un peu à part des Wii Fit et Wii Sport. Magnifique transition.
Ouais.
Parce que justement.
J'ai fait exprès, t'as vu.
Attendez.
Bien joué. Parce que justement,
fais des gros applaudissements en post-prod. Parce que là, franchement, ça vaut le coup.
Ouais, voilà, en post-prod, limite, c'est avec le. Genre, t'appuies sur le bouton, t'envoies les applaudissements, quoi.
Tu sais que le pire, j'en ai
attendez,
un
il a encore plein derrière cette porte. Bravo, bravo.
Ah, donc bref, Wii Sport et Wii Fit, là typiquement c'est autre chose parce que c'est des jeux que Nintendo vendait de manière parfaitement traditionnelle auparavant et que là quelque chose de très étrange. Alors donc pour résumer, on va déjà parler de Wii Sport qui se résume assez rapidement et où là je trouve que c'est un peu de l'arnaque. En gros, ils vont sortir au lancement deux sports, le tennis et le bowling. Et, ouais. Et chaque sport, il faudra payer 10 euros pour acheter le sport qui t'intéresse. Ou alors, tu payes 2 euros pour jouer à tous les sports que tu veux pendant 24 heures. Déjà, là, t'as un premier problème, c'est que les sports suivants, ils vont les ajouter après. Ce qui fait que si à la sortie des deux premiers sports, tu payes donc 2 euros pour... oui, c'est ça, 2 euros pour 24 heures, t'as accès que à deux sports.
Voilà.
Si 6 mois plus tard, tu payes encore 2 euros pour 24 heures, là, t'auras accès aux 5 sports.
Et on n'a pas encore le calendrier des sports, on va dire.
Oui, ouais.
Et alors, on n'a pas non plus... pour le moment, on sait qu'on va avoir donc deux sports à la sortie, puis 3 qui vont suivre après, qui vont correspondre à ceux du premier Wii Sports, grosso modo. Mais on ne sait pas par après s'ils vont nous ressortir des ressuscés online du Wii Sports Resort, par
alors,
exemple.
En même temps, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre des sports en dehors du tennis et du bowling? Je pose la question parce que je pense que...
Le golf, c'est très sympa.
Voilà.
Le golf, déjà.
Et moi,
ça,
personnellement, je suis un des rares à bien m'amuser sur le baseball.
Moi, j'ai du mal, mais
c'est typiquement le problème. C'est-à-dire que le baseball, je m'y amuse bien, mais je vais pas non plus payer 10 euros juste pour le baseball, quoi. Je suis prêt à payer 10 euros juste pour le tennis, mais les autres, ça devient plus compliqué.
Ouais, voilà, parce qu'en fait, les deux seuls jeux qui étaient vraiment, enfin, les deux seuls jeux, j'exagère un peu, mais on va dire que les jeux, je pense, les plus joués sur la compilation Wii Sports, ça devait quand même être le tennis et le bowling.
Et c'est pour ça que c'est les premiers qui font d'ailleurs.
Et je pense que c'est pour ça que c'est les premiers qui font, ça me paraît évident. Mais du coup, est-ce que... Enfin, je sais pas, la... Alors, enfin, voilà. Qui c'est qui va aller payer pour la bataille de coton-tige sur le truc, quoi, tu vois?
Ouais, alors ça, c'est de Wii Sports Resort, donc c'est toujours pas prévu pour le moment. Mais pour le coup, c'est vrai que... Quand on prend le premier Wii Sports, grosso modo, on le trouve maintenant... Enfin, on l'a tous eu avec la Wii, mais pour ceux qui l'ont pas eu avec la Wii, on le trouve en occasion à 5-10 euros, ou bien on le trouve en neuf... je sais pas, pour 25 euros, peut-être quelque chose comme ça.
Mais là, j'ai mieux comme comparaison. C'est simplement Wii Sport Resort, où il y avait, je sais plus, 12 sports, je crois, dedans.
Il est à 25 euros.
12 sports, ouais.
Non, il était à 50 euros, mais avec un...
Avec le Wii Motion Plus.
Avec le Motion Plus. Et là, ouais. En gros, au final, tu vas devoir payer 50 euros pour avoir juste les 5 sports du Wii Sport original.
Exactement. Sachant que, parenthèse, avant tout, il y a Dr. Mario qui nous dit sur Twitter que le baseball, c'est gay. Voilà.
Comment il l'a écrit,
Oscar, t'es foutu. Donc sachant que finalement ce que vont apporter ces versions uniquement dématérialisées, puisque ce sera commercialisé via l'eShop, bon, on va avoir la HD forcément, mais voilà, c'est pas un argument. Alors on va voir la prise en compte du Motion Plus. Ça c'est quand même assez sympa dans la mesure où le premier Wii Sport n'était pas compatible Motion Plus et où bon pour la précision et le geste et la performance.
En même temps, je crois que à part le tennis, tous les jeux de Wii Sport sont sortis dans Wii Sport Resort. La boxe et le tennis peut-être qu'ils n'y sont pas.
Je sais pas, j'ai pas touché à la version Resort.
Il me semble qu'il y a une version du bowling, donc
non, pas le baseball.
Pas le baseball. Bon,
je
bah,
crois qu'en fait, il y a juste le bowling.
Mais vu que le baseball c'est gay.
Ouais. Non, mais écoute, ouais. Dr. Mario, c'est le mec qui est à fond sur Hello Kitty, donc s'il te plaît.
On va l'inviter une fois.
On va l'inviter.
Pour tester Hello Kitty Cruisers Racer, je sais plus quoi là.
2012 Platinum Circuit Edition, pas oublié.
Black Ops 2. Ouais. Alors pour le coup, on aura quand même le mode en ligne. Là, c'est vrai que c'est quand même intéressant dans la mesure où c'est pas simplement jouer en ligne, mais où ils ont créé une espèce de système de club. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils appellent le jeu Wii Sports Club. Où grosso modo, on s'affilie à une région. Et on fait gagner des points à notre région, quoi. Alors si on en a rien à la faute de sa région comme moi, c'est pas cool, mais
voilà. Ça je me dis que ça peut être une super idée. C'est ce qu'on fait des jeux comme Planet Side 2 par exemple, dans un style un petit peu différent, parce que là tu choisis un clan et puis tu te retrouves sur un serveur et tout ça, mais finalement tu fais gagner des points entre guillemets à toute une équipe. Tu fais gagner des points à l'ensemble d'une équipe plutôt que de gagner des points individuellement ou de gagner des points pour une guilde, ouais, ou machin. Là, d'une certaine manière, tu choisis une faction, mais après, t'as des trucs qui sont automatiquement attribués à certaines personnes.
Voilà.
Donc, ça va créer une espèce d'esprit de corps. Ce qui va être rigolo, c'est de voir un petit peu le classement, de voir la région machin qui est,
ouais, alors,
au-dessus de la région.
Truc.
Je pense que ça peut être un peu intéressant, quoi.
Enfin, toi, Mortal, vu que pour toi, la France s'arrête à la région parisienne, ça ira, mais j'ai quand même un bémol. Donc si on prend la Belgique, grosso modo, il va y avoir dans le Wii Sports Club, il va y avoir trois régions, donc la partie sud, la Wallonie, la partie nord, la Flandre, et la partie centrale, qui est la région de Bruxelles. Mais bon, du coup, je veux dire, la Wallonie, par exemple, c'est grosso modo, c'est le Nord-Pas-de-Calais en superficie.
Oui,
sauf que les régions de Wii Sports Club seront découpées un petit peu plus grossièrement pour la France, c'est-à-dire qu'on aura la région du nord, je crois qu'il y aura le sud-est, le sud-ouest, le centre, l'Est, l'Ouest, et alors l'île de France, pour faire plaisir à Mortel. Donc je crois que le découpage va peut-être être un petit peu moins enthousiasmant.
Oui, d'accord. Alors déjà, je me corrige juste, parce que je viens d'y repenser après, avant qu'il le dise, Dr. Mario, c'est pas du tout Hello Kitty, c'est Dora l'exploratrice. Voilà.
Pour la précision.
Est-ce que c'est mieux?
ça, je ne sais pas, je vais juger. Mais il me semble, je suis pas sûr que on, donc il y a un découpage de régions comme tu dis, mais il me semble qu'on peut choisir, peu importe sa localisation, la région qu'on veut.
Mais alors c'est surtout, est-ce qu'en Belgique ils vont se faire chier à faire le découpage de régions vu que c'est un pays de cons, quoi.
Vu que c'est un pays qui vaut assombrer.
Juste un pays tout petit.
Non mais ce que je dis là, c'est pas de la blague, c'est-à-dire que enfin tu le vois sur les trailers et tout ça, tu vois le découpage.
Non mais ok, mais quand ils vont vendre le jeu au Liechtenstein, tu crois qu'ils vont faire un découpage dans la rue du sud, la rue du nord, enfin
non,
ça
mais
ressemble à rien.
Ils vont le rattacher au pays voisin, c'est tout. Hein.
Non mais bon voilà, mais a priori tu peux te mettre dans la région que tu veux, si j'ai bien compris. Oh, effectivement c'est des régions,
ouais,
au sens très 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 large,
ouais.
Mais je sais pas si c'est des groupements, s'ils se sont dit genre on va mettre des régions qui font à peu près tant de population, parce que ça de ce que tu me décris, ça avait l'air de correspondre
ont...
à peu près.
Ouais, je pense qu'ils ont pris la carte, ils ont fait des traits et ils ont donné des noms derrière.
Ouais, ils ont pas réfléchi, ils ont fait nord, ouais, sud, voilà. Est, ouest, voilà, c'est bon.
Après bon, on verra. Donc ça sort le 7 novembre, donc c'est très très bientôt. Qui est-ce qui ici compte d'une manière ou d'une autre s'y a donné en dehors des 24 heures fournies voilà.
Moi oui, déjà, parce que j'avais bien aimé le tennis et le fait que ce soit en ligne, c'est vendu, quoi. Ils me l'ont vendu.
Ouais.
Donc, ouais, pareil, mais juste le tennis personnellement, enfin après,
ouais,
je verrai, mais juste
après,
le tennis,
ouais. Au moins le tennis, ouais, après faudra voir.
D'accord, moi je suis encore assez indécis dans la mesure où je me dis, bah, j'espère qu'ils feront un paquet avec tout, parce que...
J'espère qu'ils feront un gros paquet avec
les jeux, on jouera... Siron toilette. Les jeux, on jouera le moins de type la boxe. Bon, ok, je vais peut-être payer 2€ pour essayer, mais j'aurais peut-être quand même envie de la voir à long terme.
Non mais la boxe, on est tous d'accord pour dire que c'est naze.
Ça dépend, avec Wii Motion Plus, ça peut peut-être
dépend.
Être pas mal. C'était assez technique, hein. C'était pas évident de se rejouer.
C'était,
moi, j'ai
c'était assez technique.
Peu,
et je peux te dire,
mal,
tu mets un gamin de 2 ans devant la boxe, il devient fou. Hein.
Oui, parce que c'est un gamin de 2 ans. Tu mets un gamin de 2 ans devant n'importe quoi, il devient fou. Tu le mets
devant un gamin de 2 ans,
tu le lances par la fenêtre, il devient fou.
Tu mets un gamin de 2 ans devant Wonderful 101, il comprend rien, quoi, tu vois.
Tu l'as fait, bien entendu.
Même Wonderful 101, je suis sûr qu'il peut s'amuser.
Ouais. Donc, ouais, il va en chier déjà. Stick droit, stick gauche.
Il va rien faire, mais il va juste s'amuser en se
déplaçant. Non, mais t'imagines même pas à quel point la coordination des deux pouces, déjà, c'est un truc que t'acquiers vers l'âge de 18-19 ans en réalité.
Ah, mais c'est un truc. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Même et même mais pas après, je veux dire, nous, on a pas grandi avec l'apprentissage au double stick, genre pour les FPS, ce genre de conneries. Mais j'ai essayé la démo aujourd'hui sur PS3 de Brothers Two, Tales of Two Sons, un petit jeu indé où tu diriges deux personnages à la fois, mais avec deux sticks différents. C'est vu du dessus, tu vois. Et c'est hyper, t'en fais passer un à droite alors que tu le diriges avec le stick gauche, tu t'en mets le vide juste après, quoi. Et donc, ouais, pour ton gosse, fous-le devant, Peggy 12, tu t'en fous, mets-le devant.
On va bien voir ce que ça va donner. Voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus, bien ou est-ce qu'on a fait le tour? Je sais pas.
On va passer à Wii Fit U.
Ah, voilà, Wii Fit U, c'est ça. C'était la dernière partie qui manquait, je suis désolé.
Alors, la pré-dernière partie. Après, il y a les DLC.
Je vais essayer de résumer ça simplement parce que c'est super compliqué.
Je trouve ça très facile en même temps.
Ouais, enfin.
Ouais, je suis pas sûr d'avoir tout compris, ouais.
Pareil. Alors, Wii Fit U, ils vont sortir, donc, à partir du 1er novembre, ils vont sortir le jeu complet, mais uniquement dématérialisé. Donc, qu'on pourra télécharger gratuitement jusqu'au 31 janvier. Et une fois qu'on lance le jeu la première fois, on peut y jouer toujours gratuitement pendant 30 jours.
Après, à condition d'avoir la balance board, vu que son balance board du
évidemment,
fit,
à condition de déjà avoir une balance board. Ouais. Après, il y a le fit meter qui va sortir, et si t'achètes le fit meter, ça te valide ton achat. Enfin, c'est-à-dire que la version complète de Wii Fit U que t'as téléchargée gratuitement, bah, tu continues à l'avoir indéfiniment.
Voilà, sinon ça s'arrête au 31 janvier.
En gros, t'as Wii Fit U pour 20 euros pour ceux qui avaient déjà une balance board et tout avant, quoi.
Exactement. Ouais. Enfin, avec le fit meter. Enfin, voilà, peut-être un peu plus 20, de 20 euros, je crois.
Ouais, c'est 25 les fit meter en prévente. Alors, il y aura des fit meter noirs, des fit meter verts et des fit meter rouges. Au Japon, ce sera un peu moins cher que, enfin, comme d'habitude. Voilà. Et ben oui, voilà. Et du coup, moi, ça me fait penser un petit peu. Enfin, ça n'a plus grand chose à voir, mais ça me fait penser un peu à ce qu'Ubisoft a fait avec le report de Rayman, c'est-à-dire que bah, ils ont fourni un truc gratos jusqu'à ce que le jeu sorte, en fait.
Est-ce que ça ressemblerait pas à un problème de prod du fit meter ou un problème de finition dans le jeu qui fait que les
mecs disent je crois que le fit meter il va être dispo très tôt.
Enfin, moi j'ai l'impression, parce que il faut savoir que après le Wii Fit U, il sortira en début d'année prochaine en version boîte normale. Il y aura un pack avec le jeu plus le fit meter et un pack avec le jeu plus le fit meter plus la balance qui coûtera un bras. Je me demande si c'est juste que voilà, les délais étaient un peu rapides et c'était une occasion de sortir le jeu en dématérialisé, déjà de tenter donc ces nouvelles façons de monnayer même temps de le sortir un peu rapidement pour la fin d'année.
Façon New Super Luigi U qui est sorti en dématérialisé avant de sortir en vraie boîte, et ça permettait peut-être aussi à Nintendo de jauger le truc et de se dire si les fans publics étaient prêts, quoi.
Je pense que c'est des tests, New Luigi U, et puis là cette façon de vendre, je pense que c'est vraiment des tests que Nintendo.
Moi, j'ai vraiment cette impression là aussi, excuse-moi de t'interrompre, Gazeout, dans la mesure où, enfin, effectivement, avec Luigi U, ils ont testé quelque chose, puis bon, là, sur Pikmin 3, ils viennent de lancer les DLC, on va en reparler juste après. Là, ils annoncent encore de toutes nouvelles choses, et je me dis peut-être que pour le futur, bon, ça paraît un peu gros, on sait bien qu'il y a peu de chance, mais moi, je vois bien un Mario Party payable à 2€ pour 24 heures, ou bien même, parce que grosso modo c'est des jeux gros public, parce que le grand public, bon, la Wii U peut-être qu'il l'aura pas, la Wii il l'a eu, la Wii U on sait pas trop, et grosso modo peut-être que le grand public a pas envie de cracher 50€ pour un jeu, et que du coup peut-être même Mario Kart
mine de rien c'est une bonne technique pour le grand public aussi, parce que bon, là je sais pas s'il y a beaucoup de ce qu'on appelle le grand public qui a une Wii U, mais là si jamais quelqu'un veut un Wii, si quelqu'un veut le Wii Sport Club ou le Wii Fit, il n'aura pas d'autre choix de passer par le dématérialisé, et donc ça, quelque part ça l'oblige à se connecter et à un petit peu à apprendre un nouveau.
Je suis d'accord avec Gozo sur un truc, c'est que c'est peut-être pas idiot dans certains cas de figure. Je me dis que un consommateur lambda qui organise une soirée entre amis et machin tout ça. Tout d'un coup tu peux te retrouver avec, enfin, Wii Fit U, il y avait le côté fitness, ok, mais il y avait aussi le côté les jeux un peu marrants.
Ouais.
Et c'est pareil pour un Mario Party, c'est pareil pour un Wii Sport, c'est pareil pour un machin. C'est le genre de truc, effectivement, tu payes 2€, ta soirée, les soirées sont, la soirée est réussie parce que t'avais des Ferrero Rocher et une Wii U, ça vaut le coup, quoi. Ouais, alors, c'est un modèle de vente un peu particulier.
Je pense qu'il y a une partie du public, justement du grand public, qui n'a jamais été, qui n'a jamais rien acheté de dématérialisé. Et là, il va être obligé, quoi. Si jamais ils veulent leur Wi-Fi ou leur Wii Sport à la sortie, bah, il va être obligé de se renseigner pour voir comment on connecte la console et comment ça marche, l'eShop et tout ça. Et donc, je pense que c'est une des façons que Nintendo a trouvé peut-être pour un peu imposer ses services en ligne, quoi. C'est peut-être pas con, quoi.
Je suis tout à fait d'accord, d'autant plus qu'il faut savoir que pour un constructeur, c'est tout bénef pour eux. Plus il y a de monde qui se connecte, qui utilise le dématérialisé, bah, plus ils ont l'opportunité de vendre des jeux en dématérialisé qui leur apportent plus d'argent que si les jeux sont vendus en magasin. En plus, ça leur permet de mettre en avant la plateforme l'eShop, où dans l'eShop, ils mettent en avant déjà des jeux qui sont uniquement disponibles en dématérialisé, comme les jeux indés. Et aussi, ils mettent en avant les Nintendo Direct, des trucs comme ça, donc c'est plus efficace pour eux pour fidéliser leur clientèle. Et on sait que la clientèle grand public de type Wii Sport, Wii Fit et tout dont on parle, c'est pas une clientèle qui est très fidélisée. Et du coup, c'est un bon truc. Seulement, le problème, c'est que c'est un bon truc, effectivement, pour essayer de leur forcer à s'ouvrir au dématérialisé. Mais je suis pas sûr que ce soit un bon truc pour vendre des consoles. Or, en l'occurrence, là, pour l'instant, leur problème, c'est de vendre des consoles.
On me pose la question sur IRC. Est-ce qu'on a les chiffres de vente, justement, des trucs qui sont vendus en kit, genre Wi-Fi, Wii Panorama, machin? Est-ce que Nintendo donne des chiffres de vente, ou est-ce que c'est le mystère complet et ça reste dans les secrets, dans les cartons de Big N?
Mais ponctuellement. Ils en donnent de temps en temps. Enfin, par exemple, ils avaient donné pour les jeux sur 3DS, les jeux Street Pass, là.
Ils avaient donné les chiffres pour dire que c'était un grand succès.
Oui, voilà.
Ils donnent les chiffres quand c'est un succès, quoi, je pense.
Ils avaient fait un chiffre d'affaires de 400 millions de yens.
Ce qui est pas trop mal.
Ce qui est intéressant, alors ça fait, pour les gens qui ne connaissent pas, ça fait à peu près 350 millions de roubles.
Tout de suite on situe mieux, ça doit faire vers les 3 millions d'euros, c'est ça?
Ouais,
en modo. Mais pour le coup, peut-être que Nintendo est encore fortement dans l'expérimentation de tous ces modèles de vente là, et que qui communiqueront peut-être le temps voulu quand ils seront peut-être un peu plus fixés ou quoi, peut-être jamais.
Non, mais
vu que la console démarre
pas. De toute façon, oui, ils expérimentent parce que c'est assez intéressant parce que ils sont arrivés super tard par rapport aux autres au dématérialisé, et quand ils s'y sont mis vraiment à fond. Je veux dire, si on compare, Sony, eux, ils sont à un niveau, mais Microsoft, sur Xbox 360, tu ne trouves pas les jeux en version dématérialisée, ou sauf exception, quoi.
Si, il y en a vraiment beaucoup.
Il y en a, mais pas tant que ça.
Il y a un an, c'est clair, mais maintenant, il y en a, je sais pas, je dirais quasi tous. Peut-être, voilà.
C'est quand même le jeu le plus important de sortir.
Ouais, ça c'est clair.
Voilà.
Ça c'est clair.
Et alors que Nintendo, maintenant tous les jeux Nintendo qui sortent sont disponibles en dématérialisé, et la majorité des jeux tiers aussi. Donc ils s'y sont mis quand même vachement rapidement d'un coup. Et puis assez correctement, non, parce que y a toujours le gros problème que ton compte Nintendo est lié à la console.
Oui, là, tout à fait. D'ailleurs, on espérait que résoudre ce petit problème, parce que c'est quand même un problème, arriverait avec la dernière mise à jour, mais c'est pas tombé. À mon avis, il faudra attendre peut-être la synchronisation de la 3DS avec le Miiverse, etc. Peut-être que là, ils feront quelque chose.
Ce sera un peu tard. Enfin, moi, je peux dire que personnellement, je me suis fait voler ma 3DS il y a quelques temps. Je me suis fait voler tous mes jeux que j'avais dématérialisé avec, quoi.
Ah, tu m'étonnes. Ça, c'est...
Et là, tu es dégoûté.
Voilà.
Vraiment. Alors, pour le coup, petit pronostic. Qui est-ce qui pense que Mario Kart peut arriver par un modèle de vente alternatif en plus de la version boîte?
Non.
Les autres? Non, explication? Non, feeling?
Non, parce que c'est un jeu trop important et... Et c'est un jeu qui va cartonner dès le lancement. Alors, autant ils peuvent se permettre sur des trucs comme Wii Fit, comme Wii Sport, parce que c'est des jeux qui sont habitués à se vendre sur la longueur. Enfin, Mario Kart aussi, ça se vend sur la longueur, mais Mario Kart, c'est quand même plus fort. C'est un truc qui se vend vraiment dès le lancement. Et ils peuvent pas se permettre de faire... À la limite, ils peuvent éventuellement faire un truc, mais il y aura quand même, en même temps, la version boîte qui sortira de manière classique.
Alors, on nous pose la question sur Twitter, s'il y en a qui ont essayé les DLC de Pikmin 3.
Non, c'est Sirar qui est enfermé dans les toilettes, qui nous pose la question parce qu'il n'arrive pas à en sortir, en fait.
Ah, mais c'est peut-être ça, en fait. Non, mais voilà,
on va venir te sauver, Sira.
Est-ce que quelqu'un a essayé les DLC de Pikmin 3? Parce que il me semble que c'était assez correct en termes de tarifs.
Tout à fait.
J'ai l'impression que c'était pas.
On
pas
en avait parlé pendant le dernier Dojo Bar, je
pense. Ah, attendez, j'entends le loquet qui. Ah oui, effectivement, il est coincé. Ah merde, il a la tête dans les toilettes.
Non, Sira, non! Respire, bleu bleu.
Voilà, donc les DLC de Pikmin 3, il y en a qui ont essayé ou.
Non, moi j'ai pas essayé.
Moi j'ai pas encore essayé. Vu que ça concerne le mode mission, j'attends de rejouer un peu pour m'y remettre et le prendre.
En règle générale, les DLC, j'évite. Pour l'instant, je crois que j'ai réussi à éviter jusqu'à maintenant. J'ai jamais acheté de DLC. Donc, alors. Et de garder ce principe le plus longtemps possible.
Même si le DLC est très bon et accessible et que tu penses qu'il est.
Et que c'est un DLC de Wonderful 101 et que.
Parce que tu vois.
Bah voilà, après c'est sûr que s'il y a un moment, s'il y a vraiment une offre qui m'intéresse, je suis obligé d'y passer quoi. Mais jusqu'à maintenant, j'ai réussi à résister. Je sais qu'il y en avait aussi pour Fire Emblem, mais a priori.
Alors là, je me permets d'intervenir.
C'était pas un plus quoi.
Parce que justement, c'est ce que j'ai bossé pendant que vous discutiez de Wonderful 101.
Alors, préparation d'émission synchronisée, désynchronisée, voilà. Messieurs, dames. On applaudit Oscar.
Non, mais parce que donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Donc, Nintendo, ils sont arrivés longtemps après les autres, dans le DLC en particulier. Et donc, ils s'y sont mis. Et c'est intéressant de voir parce que maintenant, tous les autres éditeurs font ça, le DLC. Et donc Nintendo pour eux c'est encore un truc un peu nouveau. Donc Fire Emblem qui a été le premier jeu Nintendo avec du DLC et qui a été pour moi leur offre la plus dégueulasse en termes de DLC, c'est à dire que ils en ont sorti 25 des DLC pour Fire Emblem.
Ah
et
oui.
Que voilà, donc j'ai fait le calcul. Donc alors les prix varient suivant les DLC. Donc bon, j'ai regardé par rapport au site internet japonais, donc les prix forcément sont différents, mais il faut compter que dans la logique des éditeurs, 100 yens égale 1 euro, même si en vrai c'est pas ça. Donc les prix varient de 200 yens à 400 yens suivant le DLC. Et au total, en additionnant tous les prix des 25 DLC, on en arrive donc à 7550 yens.
Oh,
sachant
putain,
que le jeu de
euros.
Base. Voilà, non, si tu convertis à l'état des éditeurs, 75 euros.
Oui, évidemment.
Et sachant que le jeu de base Fire Emblem coûte 4800 yens, donc c'est-à-dire que si tu vas acheter tous les DLC, ça te coûtera plus cher que le jeu en lui-même.
Ah. Mais c'est un grand classique du DLC. J'avais regardé pour rigoler les DLC d'un très bon jeu d'ailleurs qui est. Merde, j'ai pu arriver à me souvenir de NetherRealm Studio. Le jeu de combat avec les héros de la DC, Injustice, voilà. J'ai regardé les DLC d'Injustice, tu fais l'addition du total, ça fait 92 euros, moi je l'ai payé le jeu 30.
Voilà, non mais exactement.
Mais c'est un classique, hein, je veux dire.
C'est comme tu dis, c'est
tout acheté.
C'est un classique, mais alors après là, on aborde un sujet qui est le DLC en général, donc ça c'est vaste. Mais pour résumer, pour moi, Fire Emblem, c'est la méthode mauvaise où t'arrives dans une dérive où les DLC te coûtent plus que le jeu lui-même, donc ça va plus du tout. Ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi beaucoup chez les éditeurs japonais qui ont tendance à, souvent, dès la sortie du jeu, Namco Bandai, c'est vraiment le spécialiste pour ça, dès la sortie du jeu, tu te retrouves avec une vingtaine de DLC qui coûtent tous pas très cher, entre 1 et 2 euros, mais si t'additionnes le tout, ça te coûte une fortune pour des petits trucs à la con.
Fondamentalement, c'est pas très différent des saisons de passe qu'on retrouve ici, où on te vend déjà des DLC avant même qu'ils soient finis d'être développé ou dont on connaisse la nature finalement.
Bah ça ouais, ça c'est
pareil.
C'est encore plus aberrant parce que c'est un aveu de l'arnaque qu'est le DLC, c'est-à-dire que dès la sortie du jeu, on te dit voilà, on te fournit un season pass que tu vas payer maintenant pour avoir des DLC plus tard, mais c'est une promotion, c'est-à-dire que tu vas payer seulement 60 euros pour avoir des DLC qui en coûteront plus. Donc dès le début, on te dit t'as acheté ton jeu 60 euros, il faut que tu refiles 60 euros pour les DLC quoi.
Ouais, enfin, alors, je sens qu'on va ouvrir un sujet un peu trop vaste.
Avant qu'on se recadre sur Nintendo, j'ai une super anecdote sur PC Train Simulator 2014 qui est sorti le 26 septembre 2013. Le jeu coûte 30 euros. Alors si t'achètes tous les DLC, le package des DLC te coûte exactement 2 022,26 €. Voilà. Tu vois, t'as ton paquet de DLC à 14 euros et il y en a
50 000.
Tu fais 3 fois page down en 1080p, quoi, tu vois.
Ça valait le coup de le souligner. Donc, alors après, par contre, pour Nintendo, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il reste quand même très très prudent parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont eu des DLC de Nintendo pour l'instant. Donc, il y a eu Fire Emblem, il y a eu le Pokémon Donjon Mystère, là, le Pokémon à la con dont tout le monde s'en fout. où là j'ai fait le calcul aussi, il y a eu 12 DLC qui te reviennent à 2100 yens, donc dans une vingtaine d'euros.
Ils sont sortis en Europe, comme, enfin pour Fire Emblem comme pour ce Pokémon-là, ils sont sortis en Europe aussi tous les DLC ?
Les DLC de Fire Emblem sont... Alors je sais pas si tous sont sortis en Europe, mais en tout cas ils les font en Europe.
Parce que moi c'est un critère d'achat pour le jeu, quoi.
Non mais ils sont sortis en Europe, hein, les DLC de Fire Emblem, mais comme enfin par exemple sur la version japonaise, je crois que les derniers DLC sont sortis plus de 6 mois après la sortie du jeu.
Ah oui, d'accord.
Donc je sais pas si tous sont sortis là pour la version européenne de Fire Emblem, mais en tout cas ils les sortent. Le Pokémon, j'en sais rien, je pense que oui. Et après on a eu donc le New Super Mario Bros 2. New Super Mario Bros U
avec Luigi U.
Voilà, où là ils ont essayé un truc un peu différent parce qu'ils nous ont sorti juste un seul gros DLC, donc à une vingtaine d'euros, mais bon, on a déjà évoqué
cher,
le sujet.
Voilà, cher.
Cher, mais en même temps,
ça
le
vaut, je trouve.
Était, ouais. Voilà, je trouve ça correct pour le coup. Enfin, c'est pas une très bonne affaire, mais c'est pas non plus dégueulasse, quoi.
Voilà, là, voir l'analyse très pertinente de Méduse sur le dojo.
Exactement.
Voilà. En fait, moi personnellement, je comparerais ça par exemple au DLC de GTA 4. Où ils te sortent un DLC de 20€, mais qui est l'équivalent quasiment d'un jeu, sauf que comme ils réutilisent une ville, bah, ils vont pas non plus te vendre ça à 70€, ils te le vendent juste 20€.
Et pour le coup, ça ressemble plus au modèle des extensions PC qu'on a connu
voilà,
fin des années 90.
Ça, c'est du DLC simple, parce qu'en fait, c'est exactement, ça remplace les extensions, donc et puis ça permet d'éviter le principe de sortie annuelle à la Call of Duty. Ou en plus Call of Duty te foutent des DLC.
C'est vrai que
chaque
Call of Duty c'est un patch du précédent, en plus t'as les DLC.
C'est
assez,
non mais voilà,
wow.
C'est exactement ça. Enfin, typiquement tu regardes New Super Luigi U, je vais prendre un exemple encore plus concret. New Super Luigi U c'est une offre beaucoup plus intéressante que le FIFA qui sort chaque année.
Ouais.
Et qu'on te vend 60€ chaque année. Ouais. Quoi. Donc voilà, après il y a eu Pikmin qui est tout récent là. Et pour les jeux à venir, c'est encore très flou, mais on sait déjà que pour Super Mario 3D World et pour Smash Bros, ils ont annoncé qu'ils prévoyaient aucun DLC. Je crois même que pour Smash Bros, ils ont confirmé qu'il n'y aurait pas de DLC, alors que c'est un jeu qui se prête très bien au concept de DLC.
Oui, mais d'un autre côté, tu as la question de l'équilibrage qui est peut-être pas évident.
Exactement.
Alors, peut-être des DLC de proposer des niveaux supplémentaires, mais pour les persos,
ligne,
ce serait un petit peu...
Et du jeu en ligne, je veux dire, tu...
Comme ça, tu l'auras d'office.
Tu l'auras d'office, mais je veux dire, si tu joues, toi, contre un personnage que t'as pas téléchargé, c'est le gros problème de ce genre de truc-là, c'est-à-dire que tu joues contre un modèle que donc tu as dans le jeu, mais que t'as juste pas débloqué, enfin, tu vois, tu te retrouves dans un système un peu circulaire et un peu débile, dans lequel, en réalité, t'as tout le contenu du jeu, mais juste t'as pas le droit d'utiliser tel costume ou tel personnage. Ce qui est un peu con.
Ouais.
Bah après, moi j'ai l'impression que c'est quand même une espèce de part d'honnêteté qu'a Nintendo par rapport à la plupart des éditeurs de dire qu'il y a des jeux où c'est dégueulasse de fournir du DLC et donc on va pas en faire. L'exemple aussi c'est Animal Crossing.
Ouais, Animal Crossing ils auraient pu gagner une fortune, je pense.
Avec du micro-paiement et plein de petits objets, c'était fini quoi.
J'irais même plus loin parce que actuellement on a deux jeux qui cartonnent sur 3DS, Animal Crossing et Pokémon, et pour tous les deux ils ont confirmé qu'il n'y aurait pas de DLC. Alors que c'est l'opportunité à gagner une fortune. Donc comme quoi Nintendo reste assez correct là-dessus. Après bon voilà, faut voir avec le temps. Comme j'ai dit, Fire Emblem c'était un peu dégueulasse pour le coup.
Je pense qu'on va conclure là-dessus. Simplement parce que le sujet est vraiment très 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 large. Il faudrait y consacrer une émission entière.
Mais en tout cas, je pense qu'on a bien balayé.
On a balayé quand même
un petit peu les intentions de Nintendo sur ce plan-là.
On a bien balayé le truc. Donc
je pense qu'on peut conclure par une remarque de Cyrard qui dit toujours il est sorti la tête de toilette, qui nous dit ce qu'il pourrait faire aussi, c'est rendre payant une utilisation du super guide pour les noobs.
Moi, je pense qu'il y a quand même du concept.
Il y a des gens qui l'ont déjà fait, non pas avec les super guides, mais par exemple pour les. Si je prends Tales of Vesperia sur 360, tu peux acheter de l'XP pour tes personnages, je crois.
Il y a le meilleur exemple, c'est Sonic là, avec l'histoire où ils te vendent un pack de 25 vies.
Ah oui, c'est ça. Pour la sortie du jeu, je sais plus comment ça fonctionne, mais il y a une offre de ce style-là, je crois. Ouais. C'est pas pour les précommandes ou
d'un côté, moi, tout le monde a dit que c'était dégueulasse, mais comme tu dis pour le super guide, moi je trouve ça assez intéressant dans le sens où bah t'es mauvais, tu payes plus.
C'est pas trop le but.
Bah t'es mauvais, tu réessayes, c'est tout, tu vois.
Ouais. Mauvais,
si tu payes plus, t'apprends pas à jouer. T'apprends.
Bah et puis si t'es
prends juste la sortie de ton portefeuille
comme à l'ancienne et puis voilà quoi.
Ouais. Bon. Allez, si quelqu'un a une blague, c'est le moment. Sinon, ta gueule et mes Tetris.
Moi ça me va.
Moi, ça me va aussi. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Merci Gazeux, merci Oscar. C'était vraiment très intéressant. Et je sais pas de quoi on va parler dans 2 semaines, mais j'espère que ce sera aussi intéressant. Ta gueule. Bon, allez, ta gueule et mes Tetris. À dans 2 semaines.
Ciao.